En mars 2021, les Mirage de 1000 Français bombardaient sauvagement une cérémonie de mariage à Bounti, au centre du Mali, quitte à massacrer, selon les chiffres officiels, 19 civils. Quelques mois plus tard, et face à l'indignation de l'opinion publique, l'ONU, boîte à outils des puissances occidentales, a fait publier un rapport qui confirmait le massacre, mais le justifiait à la fois en accusant les villageois d'avoir fait entrer 4 personnes armées dans leur cérémonie. Le rapport d'enquête de l'ONU confirmait alors la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils, parmi lesquels se trouvaient 5 personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma. C'est ce que disait le résumé éhonté du rapport consulté par l'AFP. Une centaine de civils, parmi lesquels 5 personnes armées, participaient ce jour-là à un mariage près de la ville de Bounti. À l'époque, personne n'aurait cru que cette situation irait très rapidement changer et d'une posture exclusivement inédite. Personne n'aurait cru que quelques mois plus tard, les forces d'occupation françaises iraient non seulement se voir contraintes de retirer leurs troupes d'une grosse partie des régions maliennes, mais encore que l'État malien et son armée iraient même plus en avant en mettant en cause les accords militaires Mali-France. Le Mali a frappé fort et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la résistance malienne contre l'occupation française ne s'arrête pas là. Et cette fois-ci, c'est en se prenant à la principale base militaire de la France au Mali que le pays sahélien prend sa revanche. Un tir de roquette a visé la base militaire française située à Gao, dans le nord du Mali, samedi soir, rapportent plusieurs médias. Selon un rapport du média français France 24, la base militaire française de Gao au Mali a été la cible d'une attaque à la roquette. C'est la principale base militaire de la France au Mali. C'est la première fois qu'une attaque a lieu contre une base française au Mali depuis leur arrivée il y a environ 8 ans. Décidément, le gouvernement et l'armée malienne n'ont pas froid aux yeux et les nouvelles dimensions de cette résistance anti-occupation se dévoilent de jour en jour. D'ailleurs, les médias propagandistes tentent de prouver par A plus B que l'armée malienne ne peut faire face aux terroristes interposés sans soi-disant l'aide de l'actuelle OTAN et que toutes informations concernant l'avancée des forces armées maliennes ne sont que des fake news. Voyons un exemple de ces coups d'épée dans l'eau. Plusieurs fake news et vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux annonçant des opérations conjointes entre Russes et forces armées maliennes ayant permis de neutraliser au moins 107 terroristes. Ces fausses informations ont pour but de légitimer la nouvelle alliance entre Wagner et la junte malienne au pouvoir. Il faudrait encore une fois souligner que toute coopération d'un gouvernement avec un pays tiers se fait sous la décision des autorités et du peuple de ces pays et non pas par l'ingérence et diffamation des forces occupantes. Il est clair que le peuple malien en a marre que militaires français fassent impunément irruption dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel village, sous prétexte à y avoir à combattre les terroristes, puis qu'ils décident de s'y installer définitivement, alors même que dès leur arrivée, le nombre d'attaques terroristes croît de façon exponentielle. Au train où vont les événements, le Grand Mali donne l'impression d'avoir opté pour une stratégie très subtile, de pression par palier. D'ici les semaines à venir, c'est la perspective d'une guerre d'attrition parsemée d'attaques anti-Barkhane qui attendent celle-ci. Et cette attaque contre la base française à Gao n'est que le premier pas de cette perspective anti-Barkhane. Mais il y a pire, cette guerre anti-occupation ne restera pas dans les confins maliens. Tout le Sahel, que les forces colonialistes ont si longtemps tenté de diviser, est derrière le Mali. Au Burkina Faso, les rapports de RFI sur de prétendues manifestations d'opposition au Burkina, puis des tirs de fusillade entendus dans des camps militaires montrent clairement que la France s'inquiète et a peur que les prises de position maliennes face à la France, à savoir la révision des accords militaires, la fermeture du ciel et le rapprochement avec l'axe de l'Est dont la Russie, la Chine et l'Iran fassent des émules dans ce pays voisin du Mali. Les forces de défense et de sécurité burkinabé ont dispersé samedi une manifestation interdite par les autorités à Ouagadougou, des manifestants sortis dans la matinée à l'appel du mouvement « Sauvons le Burkina Faso » ont été empêchés par la police d'accéder à la place des Nations à Ouagadougou, lit-on dans les informations relayées par les médias propagandistes. Mais ces propagandes ne suffisent pas à faire oublier à l'opinion publique que c'est par le Burkina Faso que les actes de bravoure anti-Barkhane et le blocage du convoi militaire de Barkhane ont commencé. Ce soulèvement que les médias mainstream et les dirigeants occidentaux tentent tant bien que mal de cacher est bel et bien réel et ne fait que s'amplifier. Ni la Russie ni d'autres pays n'ont contribué à ce que ce soulèvement ait lieu. C'est la colère de la population africaine qui s'exprime. Elle en a marre du colonialisme moderne. La machine est en route et rien ne peut arrêter un soulèvement comme celui-ci. Les Africains savent que ce sont les seuls qui peuvent restaurer leur souveraineté et leur intégrité, bafouées depuis tant d'années. L'inquiétude dans le camp occidental a donc atteint son apogée ces derniers jours. Les tentatives de déstabilisation se poursuivent. Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp du général Babassi et au camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou sont entendus ce dimanche matin. Des incidents sont également signalés à Kaya et Ouagioua dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension. Le gouvernement a reconnu dans un communiqué que des tirs ont eu lieu dans plusieurs casernes du pays, mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Le Burkina Faso fait aussi peur à l'axe occidental, surtout qu'au Burkina où les commandants militaires de plusieurs zones viennent de changer le mot d'ordre et la lutte antiterroriste via la coopération interafricaine. D'ailleurs, le ministre burkinabé de la Sécurité a récemment annoncé que la seule alternative qui se présente aux pays de la sous-région pour vaincre le terrorisme est de coopérer entre eux. Une opération dénommée Odalgou 4 a également été lancée en décembre dernier par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers la mutualisation des efforts inter-États. L'heure est à la révolte interafricaine et la seule chose qui pourrait l'apaiser, c'est bien le départ définitif des troupes d'occupation étrangères. Au Tchad, un imposant meeting du soutien au Conseil militaire de transition s'est tenu samedi 22 janvier dans le plus grand stade de la capitale. Des milliers de Tchadiens ont répondu à l'appel du président du Mouvement national pour le changement au Tchad, parti de l'ex-opposant au défunt chef de l'État, Mahamad Ahmad Lazina, rallié à la junte qu'il a nommé ministre de l'Environnement. Objectif de ce meeting, appeler tous les Tchadiens à participer au dialogue national inclusif, annoncé pour le 15 février. Que se passe-t-il au Tchad? Est-il possible que ce pays du Sahel prenne exemple sur le Mali et fasse appel à des pays comme la Russie pour doubler la France? Le fils Déby invitera-t-il les Wagner au Tchad? Réponse avec Luc Michel, géopoliticien à ce sujet.
Tchad, elle est très différente de celle du Mali, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que la mort du maréchal Déby, elle a laissé un pays profondément fragilisé, avec plusieurs rébellions rebelles sur son territoire, etc. Le régime de N'Djamena actuellement, il est assis entre deux chaises géopolitiques. D'une part, l'ancienne liaison, l'ancienne appartenance au bloc français, mais de l'autre, un rapprochement avec le bloc de l'Est, puisqu'il y a eu des accords militaires qui ont été signés avec la Russie, et parce que ce sont les Russes de Rosatom qui électrifient depuis juillet 2019 le Tchad. Que se passe-t-il? C'est qu'actuellement, c'est un régime qui travaille essentiellement pour sa solidification. Il y a eu des négociations qui ont été établies au Tchad et au Qatar entre 29 groupes politico-militaires de l'opposition, c'est-à-dire la plupart de la totalité de l'opposition. Il y a eu dans l'appareil d'État tchadien l'inclusion d'anciens chefs rebelles, notamment celui qui a organisé le grand meeting qui vient d'avoir lieu au Tchad. Et le but, évidemment, c'est de neutraliser toute cette opposition de façon à ce qu'il ne soit plus utilisé par l'étranger. Le Tchad est face à un autre problème. C'est une tentative de révolution de couleur qui a été menée par les réseaux de Georges Soros dès la dernière présidentielle du vivant du maréchal Idriss Déby Itno. Le chef de file de cette révolution de couleur, c'est un jeune qui s'appelle Success Masra. C'est, vous savez que les groupuscules de Georges Soros, c'est d'entraîner, de manipuler la jeunesse. Le président Déby, père, avait déjà neutralisé Masra en entamant un dialogue avec lui. Et actuellement, le dialogue avec les 29 groupes rebelles vise à marginaliser cette tentative de révolution de couleur. On sait notamment que le meeting qui a eu lieu ici à N'Djamena, il visait à annuler un meeting précédent de Success Masra. Le Tchad, donc, on ne peut pas encore parler de façon définitive. Il faut voir pour continuer à voir comment les choses vont évoluer. Ben, écoutez, le dialogue national, il vise à réintégrer l'ensemble des groupes rebelles. Il y a des gens qui étaient en exil. Moi, j'ai des amis, par exemple, à Paris, que j'ai connus en Libye. Ils sont en exil depuis les années de Hissène Habré, mais donc ça fait très longtemps. Il y a eu tout le régime du président Idriss Déby Itno. Et maintenant, il a suivi. Le but, c'est de réintégrer tous ces gens dans la communauté nationale et de faire une réconciliation nationale. Le meeting de soutien, évidemment, il manifeste le succès de cette politique, puisque il est organisé par un ancien groupe rebelle qui vient soutenir le président de transition, qui est le fils d'Idriss Déby Itno. Donc, on peut croire que cette politique aura quand même un certain succès. Maintenant, ce qu'elle va donner en dehors du Tchad, c'est impossible à déterminer.
Initiative d'hommes et de femmes désireux d'apporter leur contribution à l'édification et à l'émergence d'une société équilibrée et dynamique, la Société burkinabé de géopolitique SBG a animé une conférence de presse sur le lancement de ses activités sur le thème « La géopolitique dans l'espace CDAO ». La Société burkinabé de géopolitique est une initiative de jeunes burkinabés de plusieurs profils, dont des juristes, des économistes, des diplomates, des journalistes et communicateurs, des militaires, des paramilitaires, des sociologues, des géographes et des informaticiens. Elle s'est fixée pour objectif général de contribuer à la maîtrise des enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoinformationnels au Burkina Faso, explique membre du secrétariat à la communication de la Société burkinabé de géopolitique. La société compte organiser des conférences sur la géopolitique, des revues documentaires sur la géopolitique. Le 12 février 2022, la SBG organise sa leçon inaugurale sur le thème « Lutte contre le terrorisme au Sahel, comment construire une autonomie stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation ». Cette leçon inaugurale marquera le lancement des chantiers de réflexion de la SBG et des amoureux des questions géopolitiques et géostratégiques, a-t-il indiqué. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont au travail dans le cadre de la deuxième réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, tenue le vendredi 21 janvier 2022 à Accra, pour relancer la production de cacao au profit des producteurs. Pour le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, ces rencontres périodiques doivent permettre de redynamiser la filière cacao par des approches inclusives bénéfiques à tous les acteurs de la filière, plus particulièrement les producteurs les plus vulnérables. Cette vision partagée doit permettre la prise en compte de tous les déterminants qui impactent le revenu des producteurs, a-t-il ajouté, tout en plaidant pour une maîtrise de la production des deux pays en lien avec le marché international. Dans ce contexte, les moyens de maîtriser notre production semblent plus aisés, mais le marché international est loin d'être maîtrisé au vu des nombreuses fluctuations et contraintes que nous imposent nos partenaires extérieurs, a déclaré le ministre d'État. Un contrôle efficace de la production de cacao dans les deux pays nécessite la construction d'une institution forte basée sur des compétences pluridisciplinaires pour conduire l'initiative et qu'il y ait un fonctionnement efficace des organes de l'initiative, selon le ministre qui a souhaité que les deux États s'organisent à travers l'initiative pour mettre en lumière les efforts de leur gouvernement et présenter les faits réels et actualisés du travail des enfants et de la déforestation dans nos pays respectifs. Le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, récemment lancé dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZELECA, offre aux entreprises chinoises des opportunités d'accroître leurs investissements sur le continent, a déclaré un expert ghanéen. John Gatsi, doyen de l'École de commerce de l'Université de Cape Coast, a déclaré à Xinhua qu'à mesure que les pays africains adopteront le PAPS, les investisseurs chinois trouveront plus pratique de commercialiser leurs marchandises sur le continent. Le PAPS vise à développer une zone monétaire pour soutenir le commerce interafricain en rendant les paiements et les transactions plus efficaces. Déjà, les investisseurs chinois ont une grande présence commerciale sur le continent africain. Nous ne serons pas surpris de voir que les biens produits par les entreprises chinoises se dérouleront plus rapidement qu'un pays africain à l'autre par le biais du système, a ajouté M. Gatsi, qui a ajouté qu'il pensait que le lancement du PAPS incitera potentiellement davantage d'investisseurs chinois à développer leurs activités sur le continent. En ce qui concerne le contexte de la ZELECA et le continent africain, continue d'être un système ouvert permettant à d'autres acteurs de participer. Comme les paiements transfrontaliers seront considérablement facilités, il ne fait aucun doute que les investisseurs chinois continueront de bénéficier de la zone commerciale continentale, a-t-il expliqué. Lancé en 2018 et prévu pour durer 2 ans, les travaux devant augmenter la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Sotuba ont pris du retard. L'exécutif malien se donne donc les moyens d'achever ce projet. Au Mali, le gouvernement a adopté lors du Conseil des ministres du mercredi 19 janvier 2 décrets pour relancer les travaux de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba. Confié aux entreprises chinoises China Gezuba Group Company et Sinohydro Corporation, la mise en œuvre du projet est perturbée par des contraintes liées notamment au changement du régime fiscal des marchés de travaux et à l'arrêt des opérations de déroquetage sur le site, précise le gouvernement. Le premier décret porte donc approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de réalisation de génie civil, alors que le second porte sur le marché relatif à la fourniture et à l'installation des équipements hydroélectromécaniques. Lancé officiellement en février 2018, le projet doit ajouter 2 turbines de 3 MW, chacune à la capacité de production de la centrale, afin d'atteindre une production moyenne annuelle de plus de 82 GWh. Les travaux étaient normalement prévus pour s'achever en février 2020. Rappelons que le Mali ambitionne à travers son plan d'action national d'énergie renouvelable de porter la part de celle-ci dans son mix énergétique à 58,3% d'ici 2030 en ce qui concerne le raccordement au réseau.